Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission spéciale de Radio Prague. Pâques, que nous venons de célébrer, est pour les chrétiens une fête du renouveau, du renouvellement de la foi, une fête de la lumière, de l'espérance d'une nouvelle vie, d'une vie meilleure. L'espoir et la lumière existent-elles aussi en prison? Pour les invités de cette émission qui côtoient les détenus sans préjugés et sans illusions, l'espoir et la lumière riment avec la danse, la musique et la force de la parole. Cela fait 10 ans que le danseur et chorégraphe français Philippe Tallard sillonne les différentes prisons en Europe où il monte des spectacles de danse, spectacles où il met en scène les détenus eux-mêmes. Radio Prague l'a rencontré en mars dernier à Ostrava, dans le nord-est de la République tchèque. Cette fois, il a choisi de monter un spectacle non pas en prison, mais au Théâtre National de Moravie-Silésie d'Ostrava, où dans des conditions de sécurité renforcées, une dizaine de détenus montent sur scène. Cette création de Philippe Tallard s'intitule Padaïti Andiala, en français Les Anges Déchus. Ce spectacle multigenre, mêlant danse, chant et acrobatie, est basé sur les textes de Jean Genet, poète, écrivain, auteur dramatique et également détenu. Au cours de l'interview réalisée en marche d'une répétition au théâtre d'Ostrava, Philippe Tallard a parlé de cet auteur français qui l'inspire depuis sa jeunesse, ainsi que de l'abandon, de la solitude dans et hors milieu carcéral. Bref, des sujets de prédilection de l'écrivain aussi bien que du chorégraphe. Une interview au cours de laquelle Philippe Tallard a beaucoup fumé et beaucoup ri, malgré la gravité du sujet abordé. Mais il a d'abord commencé par évoquer ses débuts de danseur.
À la danse, en fait, je suis arrivé parce que j'ai été élevé par les jésuites au Collège de Provence à Marseille, et il y avait un prêtre qui s'appelait Jean Magnan, qui est encore vivant, bien qu'il ait un cancer de la prostate depuis 10 ans, et qui m'a regardé. Ben, j'étais capitaine de l'école du team de handball. Et il a dit à ma mère, c'est bizarre, quand il joue au handball, on dirait qu'il danse. Alors ma mère m'a mis à la danse. C'est comme ça, c'est à cause du sport.
Et est-ce que dans votre carrière, il y a eu une période que maintenant vous jugez particulièrement importante pour justement pour votre carrière de danseur, de chorégraphe ou pour votre vie?
Probablement la lecture. La lecture, parce que ça vient de l'éducation que m'ont donné mes parents. Et justement, Genet, particulièrement Genet, étrangement, parce que c'est grâce à Genet que j'ai été exempté du service militaire. Parce que j'avais avec moi un livre très fameux, Notre-Dame des Fleurs, et le psychologue a dit, qu'est-ce que vous lisez? Je dis, Notre-Dame des Fleurs. À l'époque, j'avais 18 ans, et je venais juste de rentrer chez Béjart. Donc c'était l'argument pour m'exempter, c'était en fait avec une possibilité criminelle, plutôt violente. Et une vague fascination pour la violence. Mmh. Et donc j'ai été exempté, j'étais très content et je suis retourné chez Béjart à Bruxelles.
Vous avez commencé à travailler dans le milieu carcéral, mmh, sur le milieu carcéral en 2002. Depuis, vous avez travaillé dans plusieurs prisons un peu partout en Europe, à Marseille, à Luxembourg, à Rome. Pourquoi en fait avoir entamé ce projet?
Ce parcours, c'était en fait parce que j'ai toujours je vais pas dire une fascination morbide par l'univers de Genet, parce que c'est pas du tout morbide, mais j'ai toujours été très intéressé parce qu'on a c'est peut-être une certaine proximité dans l'histoire avec Genet. Je connais des gens qui le connaissent, qui l'ont connu, qui m'ont toujours parlé d'un personnage assez particulier, et j'ai toujours adoré ses textes. Et je trouve que ces textes décrivent pas seulement l'univers carcéral, mais décrivent vraiment la situation humaine, justement, d'un ange déchu, de quelqu'un qui a chuté. Et c'est un peu tout le mythe et toute l'histoire dans cette pièce ou dans n'importe quel livre de Genet. C'est la situation de l'abandon, c'est-à-dire on est abandonné des autres, on a chuté, on a commis un crime, on a été abandonné par sa mère, comme Genet d'ailleurs. On a violé, on a tué, on a fait des fautes, on a détourné de l'argent, et on se retrouve en prison. Et là, on se rend compte que finalement, on est vraiment tout seul, comme il le dit. Et on paye ce qu'on appelle la peine. Et la peine, en fait, la peine, ça peut être la peine capitale, c'est-à-dire là, on disparaît, qui a été annulée par Badinter, mais ça peut être une peine de 10 ans et une peine de 20 ans. Et je peux vous dire que je connais beaucoup, beaucoup de prisonniers à travers toutes ces 10 années en prison. Même un jour, c'est beaucoup. Alors 10 ans, c'est immense. Et donc, pour tenir cette peine, pour vraiment assumer le fait qu'on ait commis un délit, c'est toute la question de la justice. De faire comprendre à un détenu, d'ailleurs c'est le directeur général de l'administration pénitentiaire qui m'a bien formulé ça, il m'a dit l'important dans un procès, c'est que le juge prononce une peine qui soit équitable par rapport au crime et que le détenu comprenne et saisisse cette peine et soit capable de l'assumer. Mais après cette peine, s'il a fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, quand il sort, il est libre. C'est-à-dire quand il est libéré, il est libre, il a payé. Il a vraiment payé et c'est beaucoup. Mais il a commis le délit. Et donc il faut qu'il accepte qu'il ait commis le délit et qu'il ne l'oublie pas. Et que quand il sorte, il faut qu'il soit prêt à sortir, il faut qu'il soit prêt à être libre. Et c'est justement toute l'expérience que j'ai et tout le travail que je fais. C'est pas seulement du travail artistique, entre guillemets, mais c'est vraiment un travail de réinsertion pour essayer de réhabiliter ou de réinsérer quelqu'un dans une société qui n'en veut plus. Parce qu'en fait, le problème, c'est la récidive. D'ailleurs, c'est très politique. C'est la récidive. Les prisons sont pleines, pas de gens qui commettent des crimes, mais de gens qui commettent en permanence le même crime parce qu'ils sortent et ils se retrouvent repris dans le même engrenage parce qu'ils tiennent pas debout. Donc, c'est les élevés. Et donc, les détenus avec qui j'ai travaillé, j'ai encore beaucoup de contacts avec ceux de Luxembourg particulièrement, parce que c'est plus proche de chez moi, de Marseille aussi, de Rome. Je sais où ils sont, je sais ce qu'ils font. Il y en a qui sont morts, il y en a qui ont été assassinés, il y en a qui ont recommencé. Et puis il y en a qui ont trouvé du travail, que j'ai aidé, et qui ont trouvé du travail. Mais je les ai aidés, je les ai tous aidés, mais il y en a ça marche, et il y en a ça marche pas. Hein. C'est fatal.
Quelle est pour vous la principale leçon que vous avez tirée de ces années de travail avec les détenus?
Ah ben c'est l'humanité, c'est la solitude et l'humanité et savoir que la liberté c'est totalement spirituel, c'est spirituel, c'est l'âme qui doit être libre et c'est l'esprit qui permet. C'est dans tous les livres de Genèse, ce n'est que cette description de cette immense liberté possible pour un être humain qui est incarcéré. Et s'il est incarcéré, il faut qu'il puisse s'évader en permanence pour rester vivant. Sinon, c'est la prison, c'est la mort. Hein. C'est une mort immédiate. D'ailleurs, les suicides sont commis généralement dans les 6 premiers mois. Si vous tenez les 6 premiers mois, après, vous commencez à vous habituer, ce qui est un danger, mais aussi à vous organiser pour la sortie. Mais c'est un objectif, de vouloir sortir, de vouloir être libre. Et ça, c'est tous les personnages jeunets font ça en permanence. Et d'ailleurs, ils ont même, ce qui est typique chez Jeunet, il a écrit beaucoup là, dans Notre-Dame des Fleurs, dans Querelle de Brest, dans l'enfant criminel. C'est je demande la peine maximum et je veux qu'on me traite avec dureté, même avec cruauté, il dit. Parce que si la peine est légère et on fait comme ça, alors on commence à s'habituer, on devient mou. Tandis que si la peine est dure, on a vraiment dit, il faut que je sois durement aussi et que je puisse en sortir.
Le spectacle que vous avez monté à Ostrava commence par une phrase assez significative. Pourriez-vous la citer
en
français?
Ça vient de l'enfant du condamné à mort. C'est la fameuse phrase du début. Ce n'est pas ce matin que l'on me guillotine, je peux dormir tranquille. Et la dernière phrase de la pièce, c'est la phrase qui vient dans une des dernières phrases dans le texte de Yeux Verts dans Haute Surveillance, c'est « Il me fallait le malheur total ».
encore une proximité une similitude entre la vie de Genet et votre vie. Mmh. Genet, il a été abandonné par sa mère à 7 mois, je crois, et c'est aussi votre histoire.
Ah oui, 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 c'est là où on a. Ben, j'en connais beaucoup des enfants adoptifs, j'en connais pas mal, dont moi, d'ailleurs mon frère aussi. Et c'est pas du malheur, mais ça laisse perplexe. C'est-à-dire le fait d'avoir été abandonné par sa mère. Moi, j'étais abandonné par sa mère. Bon, apparemment, elle se serait suicidée. Donc ça, on ne sait jamais. À l'époque, c'était impossible de demander à l'assistance publique. D'ailleurs, à l'époque de Genet, encore moins. Maintenant, il y a une nouvelle loi qui permettrait de retrouver, disons, le parent génétique. Peut-être. C'est possible. En faisant beaucoup de recherches et avec beaucoup d'opiniâtreté. Mais ça laisse, que disait Genet, une blessure qui est indélébile. C'est impossible de se séparer de ça, parce que c'est le crime le pire que quelqu'un puisse connaître, c'est en fait abandonner son enfant, c'est le tuer, c'est-à-dire le mettre au monde et le tuer. Et en fait, toute sa vie, Genet a essayé de recoudre cette blessure en inventant des personnages, et en fait, tous les personnages, que ce soit Notre-Dame des Fleurs, Divine, Yeux Verts, Culas Froid, il y en a tellement, hein, Ange Soleil, Vulcan... Ce sont tous des extensions de la vision qu'il a de sa mère. Donc c'est des fois des hommes, c'est des fois des femmes, c'est des fois des prostituées. Sa mère d'ailleurs, apparemment, Camille Genet, aurait été une prostituée. Bon, ça il l'a découvert, mais elle est morte très jeune, à 33 ans je crois. Et donc de le découvrir, ça l'a pas particulièrement choqué. Mais par contre ça l'a orienté, puisque Genet n'a jamais eu un appartement. Il n'a jamais eu une maison, il a toujours habité dans des chambres sordides, des chambres d'hôtel, même des bordels. D'ailleurs, il est mort dans un bordel, dans une chambre de bonne horrible. Et il n'a jamais eu de compte en banque. Il n'a jamais lu de traces. Et quand il est mort, il avait demandé, ça je peux le certifier, parce que c'est Roland Dumas lui-même qui me l'a raconté. Et on est assez amis, et il m'a dit, Philippe, le fascinant chez Genet, c'est qu'il m'a demandé de l'amener à l'arrache, hein, au Maroc, pour être enterré, mais sans nom. C'est-à-dire, il a dit, sur ma tombe, je ne veux pas qu'il y ait marqué Jean Genet, parce qu'en fait, je suis né sans nom, alors je crèverai sans nom. Ça, je trouve, c'est pas mal.
Quelle a été la différence, ou est-ce qu'il y avait une différence entre le travail avec la prison de Hejmanice, ici à Ostrava, et les autres prisons que vous avez travaillées par le passé?
Peut-être la prison d'Hejmanice se rapproche plus de celle de Rebibi à Rome, qui est une beaucoup plus grande prison avec 1800 détenus et des cas beaucoup, beaucoup plus graves, non, avec des peines énormes de 22 ans, 25 ans. Mais ça vient du fait que le groupe de prisonniers, les 10 prisonniers qui travaillent dedans, sur les 10, il y en a 8 qui sont roms ou tziganes. Donc déjà, ils ont un peu comme les Italiens, cette espèce de, disons, de machisme, entre guillemets, le fait de faire la prison pour un Italien, et pour la mère, et pour le père, et pour le truc, il dit, bon, mais il a fait une bêtise, il fait de la prison. Donc c'est pas quelque chose de vraiment grave. En plus, bon, ils n'ont pas commis des crimes très graves, mais chez eux, ça fait un peu partie du folklore, entre guillemets. Bon, c'est pas un très bon folklore, mais bon. Et donc, ils sont très vivants, très allègres, ils sont à l'aise avec le chant particulièrement, avec le mouvement aussi. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, à la prison d'Hermanice, il y a une très très bonne organisation. C'est étonnamment propre. Moi, je m'attendais des prisons tchèques, mais vraiment le style comme en Azerbaïdjan, hein. Pas du tout. C'est très propre, c'est très entretenu. Et il y a le service de surveillance, c'est-à-dire les gardes, le directeur, le sous-directeur, les gens qui s'occupent, sont relativement proches et assez fiers de leurs détenus, et particulièrement là maintenant, qu'ils soient arrivés. Parce qu'en fait, le garde qui il reste là, lui, il est condamné à perpète, hein. Moi, je connais des gardes, ils ont fait 35 ans de prison, c'est beaucoup, hein. C'est vraiment, ça devient un fonctionnaire, il est là en prison 35 ans, c'est énorme. Donc il les connaît, il les voit, et il espère qu'un jour ils pourront sortir et qu'il les verra plus, hein.
Pavlina Kavkova est comédienne au Théâtre national de Moravie-Silésie d'Ostrava. Non seulement elle joue dans le spectacle, elle interprète les textes de Jean Genet, chante et danse, y compris avec les prisonniers, mais elle a participé à sa mise en scène aux côtés de Philippe Tallard. Presque tous les jours, pendant 6 mois, elle l'a accompagnée dans la prison de Hermanice pour répéter avec les 10 détenus sélectionnés pour le spectacle. Très belle, d'apparence tendre et fragile, Pavlina Kavkova avoue que cette expérience l'a profondément marquée, tant au niveau professionnel que personnel.
Durant les 20 ans de ma carrière de comédienne, je n'ai jamais rien vécu d'aussi fort. En même temps, c'était comme une purification et je n'ai jamais travaillé de cette manière-là. J'ai dû réfléchir et communiquer d'une autre manière que d'habitude. Ces gars sont très empathiques. D'abord, ils ressentent immédiatement si vous allez bien ou non. Ils communiquent de façon instinctive. Il y avait une sorte d'énergie très positive qui circulait entre nous pendant les répétitions. Je leur disais toujours, n'oubliez jamais ce que vous avez réussi à apprendre et à combien de personnes vous avez fait plaisir. Pour eux, ce fut une grande satisfaction. J'ai compris une chose. Il est extrêmement facile de se retrouver derrière les barreaux. Ça va vite. J'ai connu des gens qui sont au fond bien et polis. Souvent, ils ont chuté à cause d'un malheureux concours de circonstances et d'une certaine naïveté. Mais quant aux prisonniers qui jouent dans le spectacle, je ne voulais pas savoir quel délit ils ont commis. Ce qui les a d'ailleurs surpris. Au tout début, ils m'ont même demandé, un peu par provocation, si je n'avais pas peur d'eux. Je leur ai dit que non, que je n'étais pas venue pour les juger et que ce qui m'intéressait, c'était la manière dont ils allaient travailler. Et la peur, non, je ne l'ai pas ressentie. Plutôt une sensation assez étrange quand nous avons joué une avant-première dans la prison même et que je me suis retrouvée devant 200 détenus sur lesquels je ne savais rien. J'ai eu du mal à prononcer la première phrase de la pièce. « Ce n'est pas ce matin que l'on me guillotine, je peux dormir tranquille. » Mais quand je l'ai prononcé, un silence absolu est tombé sur la salle. Il paraît que le spectacle leur a beaucoup plu.
Les prochaines représentations du spectacle Les Anges Déchus auront lieu au Théâtre National de Moravie-Silésie d'Ostrava les 11 et 20 avril. Plus de détails sur les sites du théâtre www.ndm.cz.